Bonjour et bienvenue dans l'émission Écolo d'IDFM Radio, Mission Verte, chaque jeudi de 10h à 10h30. Je suis Laurence, vous pouvez nous écouter sur le 98 de la bande FM ou sur idfm98.fr où vous pouvez d'ailleurs retrouver nos podcasts. Merci à Francky pour la réalisation de cette émission. Au programme de ce nouveau numéro, un invité, Pierre-Gilles Belin, qui va nous parler de son guide, le guide de l'habitat durable, bâtir et rénover face au changement bioclimatique. Ce sont des solutions concrètes pour un habitat résilient et économe. C'est un ouvrage à retrouver aux éditions Ulmer. On se retrouve juste après ça avec notre invité. À tout de suite. Et nous retrouvons notre invité. Il s'agit de Pierre-Gilles Belin pour Bâtir et rénover face au changement bioclimatique, un ouvrage à retrouver aux éditions Ulmer. Mais avant de parler de ce guide de l'habitat durable, est-ce que vous, Pierre-Gilles, vous pouvez vous présenter en quelques mots auprès de nos amis auditeurs ?
Oui, alors bonjour Laurence et bonjour à tout le monde. Donc moi en fait j'étais au départ autoconstructeur et je voulais, en fait j'avais un problème de charge, je ne pouvais pas avoir, j'avais vraiment pas beaucoup de moyens et je pouvais pas avoir un logement, là en l'occurrence c'était en campagne, mais avec des charges d'eau, d'électricité, etc. Donc ce qui fait que d'emblée, c'était dans les années 2005, d'emblée je me suis projeté en me disant bon, tu vas construire une première maison et il faut qu'elle soit zéro charge. Alors maintenant ça va être ton but et pour cela tu vas créer une association qui va s'appeler Arca Minor, ça veut dire la petite arche en latin. Et ce que tu vas faire, non seulement tu vas essayer de créer une maison zéro charge, mais tu vas aussi essayer de créer une petite arche, une sorte de maison qui, en interaction avec la nature, va te permettre d'arriver à zéro charge. Et en même temps, elle va te mettre sur le terrain, parce que moi, à l'époque, j'étais un intellectuel, elle va te mettre sur le terrain, elle va t'enseigner à construire toi-même. Donc d'emblée, moi, je savais que j'allais faire beaucoup d'erreurs, et j'en ai fait d'ailleurs. Et en fait, c'est un projet qui a intéressé un premier éditeur qui s'appelle toujours d'ailleurs les éditions Erol, et on a édité ensemble un livre qui s'appelle L'habitat bioéconomique, qui a très très bien marché et qui montrait comment on pouvait, en gros, le pitch c'était économiser 1 500 € de charges par an grâce à la nature. Et suivi un second livre qui s'appelait l'auto éco construction, et ça c'était l'idée, c'était comment ramener la construction vraiment à pas cher, quoi, parce que on estimait qu'il y avait énormément de coûts qui surchargeaient la construction. Ça pouvait être les normes, ça pouvait être les impôts, ça pouvait être plein de choses, et les charges évidemment. Et on voulait nous ramener tout ça en fait, à la plus simple expression. De là, moi je me suis professionnalisé. Je suis devenu ingénieur en ossature bois construction et maître d'œuvre. Et j'ai continué à faire des livres, des pas à pas techniques. Et puis, quand il est devenu clair que le changement bioclimatique s'intensifiait de manière forte, et que moi-même j'étais confronté avec un habitat sous les combles à des températures totalement insupportables, et que même quand j'allais en campagne au bord de la mer, c'était la même chose. En plus, au bord de la mer, il y avait des problèmes de submersion marine, des problèmes d'inondation. Je me suis dit, bon, ben, effectivement, il faudrait qu'on fasse un livre qui soit un peu un livre qui donne des recettes simples pour s'en sortir face au changement climatique. C'est comme ça qu'en fait l'aventure a continué. Donc, c'est une aventure qui a démarré il y a presque 25 ans. On continue, nous, à faire des essais, à monter un écolieu en Bretagne. On fait des livres qui sont toujours un angle pratique,
oui,
d'éducation populaire, enfin au bon sens du terme. C'est-à-dire que l'idée, c'est que on a tous été un peu dépossédés du travail manuel. Donc il y a une dévalorisation du travail manuel en France. On s'aperçoit qu'on peut se réapproprier des chaises techniques et ça peut être assez simple. Et même moi, je note sur les chantiers que les femmes sont d'ailleurs souvent meilleures que les hommes. Pas la force physique tellement qui compte dans un chantier, c'est plutôt le fait d'être précis, de bien comprendre, etc. La démarche du livre, bon, on a rappelé en quoi le changement climatique nous impacte. Alors c'est pas seulement, en fait on pourrait tous croire au départ que c'est par exemple la sécheresse, les inondations ou les submersions marines, Et ça, c'est les événements, disons, les plus médiatiques, hein, entre guillemets, ceux qui nous impactent le plus, qui nous mettent effectivement le plus en péril dans l'immédiat. Il y a des changements qui sont insidieux. Alors, il y a notamment, souvent, les températures sont associées à des taux d'humidité atmosphérique de plus en plus importants. Si vous voulez, il faut bien comprendre que le corps, pour évacuer sa chaleur, et nous, on a un passage sur le corps,
oui.
Il est obligé de suer. Et dans certains cas extrêmes, quand il y a trop de chaleur et trop d'humidité atmosphérique, ça, les gens qui ont voyagé dans les tropiques, ils savent bien, hein, on est tous sur l'équateur, vous ne pouvez plus suer. Et donc là, vous êtes vraiment en péril physique. Les villes sont artificielles, donc elles ont exclu la nature, les plantes, etc. Donc il y a un phénomène d'îlot de chaleur qui se développe et qui se renforce avec des tas de phénomènes de rebond thermique, etc., qui rendent la situation insupportable. Mais par exemple, quand vous allez sous les combles, et notamment dans les villes où il y a des toits en zinc, je pense pas qu'on beaucoup à Paris,
oui.
En fait, la chaleur du soleil, elle est conduite de tous les côtés, donc c'est vraiment comme dans un four. Donc là, vous pouvez toujours ouvrir, hein, ça sert presque à rien, parce que la chaleur, elle s'engouffre dans le bois, dans tout ce qui est un peu les murs, les cloisons intérieures. Donc vous pouvez toujours ouvrir votre bassista, ça ne servira pas à grand-chose. Mais le plus problématique, c'est que si cette chaleur est humide, récemment on parle de nuits tropicales en France, parfois il y a des épisodes entre guillemets tropicaux. Et si cette chaleur est humide, elle va vous empêcher de ventiler correctement. Alors ça va quand vous êtes en forme, en bonne santé, jeune et tout, mais prenez les bébés ou les personnes âgées qui ont beaucoup de mal à se réguler thermiquement, on arrive très très rapidement dans des zones très périlleuses, vous voyez.
Alors c'est pour ça que vous nous montrez dans l'ouvrage notamment la masse thermique en U de la maison de l'écolieu d'Arca Minor. Pour dire en quelques mots, c'est une structure en bois avec un toit végétalisé, quelque chose un peu comme ça pour nos amis auditeurs qui n'ont pas l'image sous les yeux.
Ouais. Alors attendez, on va peut-être avant de parler de l'écolieu,
oui.
On va y revenir. Hein. Il faut expliquer aux gens quelque chose qui est très très important, c'est que en fait, vous pouvez pas vous protéger. Autant vous pouvez vous protéger contre le froid avec l'isolation, mais contre la chaleur, vous ne pouvez pas vous protéger avec l'isolation, vous comprenez ? Parce que bon, il y a un moment où même sûrement à tous les coups d'ailleurs, la chaleur va percer l'isolant, et une fois qu'elle aura percé l'isolant, tout ce rayonnement infrarouge vont s'engouffrer, c'est vraiment comme une eau qui déborde, hein. C'est le moment où vous pouvez prendre cette image. Ça va imprégner tout ce qui est massif en fait dans la maison. Et là, vous ne pourrez plus, avec l'isolation, vous ne pourrez plus vous débarrasser du surcroît de chaleur. Sur la chaleur et la fraîcheur à l'intérieur des maisons, on s'est aperçu que dans les temps médiévaux, les gens savaient très bien faire ça. Vous voyez ? Ils savaient très très bien, je pense surtout aux maisons paysannes, où ils savaient mettre, par exemple, beaucoup de chaleur en réserve dans des murs, où la chaleur se stockait, donc ça permettait déjà dans l'hiver de limiter en fait, les variations climatiques, donc ils arrivaient à s'en sortir en fait avec des huis clos, etc. C'était très très bien agencé. Pour l'été, c'était formidable aussi, parce que l'été, les murs étaient d'une telle masse qu'ils arrivaient à stocker beaucoup de fraîcheur. Vous pouviez avoir de la canicule, mais vous arriviez à régler le problème, finalement, à vous rafraîchir naturellement. Et quand on a construit, à partir, on va dire, des années 60, on a voulu faire, on avait vraiment des impératifs de logement de beaucoup de gens qui étaient dans des bidonvilles, on s'en souvient pas, mais dans les années 70, il y avait encore des bidonvilles dans l'approche banlieue de Paris. Hein, Donc il fallait vite les mettre dans des logements confortables. Donc c'est comme ça qu'on a construit les grandes barres. Mais alors ces grandes barres, elles étaient très bien pour l'époque, parce que finalement l'été n'était pas trop chaud, et l'hiver, on surchauffait. Alors évidemment, toute cette chaleur, elle sortait par les murs, par les fenêtres, qui est un simple vitrage. et par la ventilation mécanique qui s'était développée dans cette période. Mais on s'en fichait parce que le pétrole était super bon marché, donc on disait il n'y a pas de limite. On a été confronté à deux phénomènes. D'abord, le pétrole est devenu très cher. Sa surexploitation a créé l'effet de serre qui aboutit à créer des canicules dans les zones urbaines. Le grand principe qui est développé notamment par des architectes c'est qu'on s'est dit, on fait face à des immeubles qui sont dysfonctionnels, mais ils représentent des centaines de tonnes, voire des milliers de tonnes de masse, c'est-à-dire des milliers de tonnes de béton avec de la ferraille dedans, truc absolument énorme qui permet de mettre en réserve de la fraîcheur l'hiver pour l'été et l'été de la chaleur pour l'hiver, vous voyez ?
Oui.
Donc, le problème, c'était c'est le même problème qui se pose dans des pavillons des années 60, 70, 80, 90. C'est comment on va utiliser cette masse pour tempérer la maison sans dépenser d'argent. Et c'est là qu'il y a une proposition qui est très très intéressante, qui est détaillée dans le livre, qui est une proposition d'un cabinet d'architectes connu, qui on va réhabiliter sans détruire. Ils entourent trois des côtés, est, ouest et nord de la HLM en question, d'une isolation par l'extérieur, donc qui va confiner les masses à l'intérieur. Sur le devant, ils ajoutent des serres, donc ils ajoutent, on va dire, 20-30 mètres carrés par maison, par appartement, pardon. Et si bien que vous vous retrouvez en finale avec un immeuble qui est plus important qu'au départ, mais qui va permettre de mettre en réserve la fraîcheur de l'hiver pour l'été et la chaleur de l'été pour l'hiver. Et quand, par exemple, l'été, on est en canicule, on veut rafraîchir, ces appartements sont traversants, parce que la plupart des appartements sont traversants, et l'idéal pour un habitat, c'est d'être traversant. C'est-à-dire que vous ouvrez au nord et vous ouvrez au sud, et vous avez une ventilation naturelle qui se met en route et qui va emporter le surcroît de chaleur en fait stocké pendant la journée. Vous avez créé à partir d'un habitat qui semble incompatible et qui n'est pas du tout marqué écologique dessus, vous avez créé une machine thermique écologique, ou on peut dire écologique, mais une machine thermique quoi. Il n'y a pas besoin de mettre écologique derrière. Et vous avez en plus augmenté le nombre de mètres carrés de votre maison. Alors, par exemple, dans l'exemple qu'on donne, on donne un exemple, c'est un bailleur social. Alors, déjà, c'est formidable pour les gens dans des HLM, dans des immeubles qui étaient, à l'occurrence, c'est Bordeaux, mais qui étaient considérés comme une déclassification sociale, quoi. C'est aussi une question de dignité, quelque part, très important. Et puis, on donne aussi l'exemple d'un autre immeuble où, qui est habité par une population entre guillemets l'immeuble est entre guillemets de standing supérieur, donc il est dysfonctionnel, en fait, pareil, sur le plan thermique. Mais là, on montre comment on peut, en travaillant ça, plus de la nature autour, sur les murs de l'immeuble, ramener une véritable oasis au cœur d'une ville et qui va contrer les effets de l'îlot de chaleur, oui.
Et cela avec un coût, vous le rappelez notamment, que beaucoup moins cher que si on avait détruit et refait du neuf.
Alors par exemple pour le bailleur social, effectivement c'est hyper important. Le bailleur social, ça coûtait 500-600 € du mètre carré. Donc pour arriver à une classification énergétique qui est très très intéressante. Et bon, ça c'est le bailleur social, mais par exemple dans les exemples que nous on donne, ça, c'est des banlieues ou des villes qui sont plus cotées, entre guillemets, au niveau du prix du mètre carré. Quand vous étendez une maison et que vous rajoutez 20 mètres carrés par appartement, si par exemple, l'isolation par extérieur vous coûte 1 000 € par mètre carré. Enfin, il faut savoir ce qu'on met dans l'isolation par extérieur.
Mais un autre sujet.
Imaginons que le prix du mètre carré local est de 5 000, vous dégagez une plus-value de 4 000 € une plus-value potentielle, tant que vous n'avez pas vendu, bien sûr, par appartement. Et si vous le louez, vous pouvez le louer à un prix supérieur.
Oui, parce qu'il y a question aussi du DPE dans votre ouvrage. Là encore, vous répondez à de nombreuses questions. Vous donnez aussi des cas, vous en évoquez quelques-uns, de nombreux cas pratiques, notamment d'inspiration étrangère, car on voit qu'avec le changement climatique, on va avoir des températures qui sont plus des pays du Sud. Et vous donnez comme exemple la tour à vent, un système de ventilation naturelle qui existe depuis des siècles au Moyen-Orient, des schémas dont il faut s'inspirer pour nos futurs logements.
Bah oui, comme l'idée pour rafraîchir, c'est de mettre en route des mouvements d'air naturels. Les meilleurs, si vous voulez, sur les habitats désertiques du Moyen-Orient, qui vont aller capter les vents là où il y a plus de circulation d'air, qui vont les entraîner à l'intérieur des maisons et faire ressortir l'air chaud vers l'extérieur, si vous voulez. Et en fait, il y a plein de techniques qui méritent d'être reprises à la manière occidentale. On n'est pas évidemment forcé de faire pareil. Et qui doivent respecter aussi les normes des techniques, les normes de constructive, plus les règles d'apparence des communes en question. Mais l'idée, c'est vraiment de s'inspirer de la physique simple, mais qui a fait ses preuves, vous voyez.
Et aussi de se rapprocher, d'être plus en contact avec la nature.
Oui, alors c'est pas mettre la nature. Enfin bon, nous on a une démarche, évidemment, l'association Arcaminor c'est fondée en partie sur la notion de préserver la biodiversité qui est en crise avec la hausse des températures. Mmh. Si vous voulez, nous on a, dans ce livre, on a adopté une démarche utilitariste, donc après les gens y trouveront. Leur intérêt, s'ils ont la main verte ou pas la main verte, c'est pas important, on s'adresse à tout le monde. On s'aperçoit que dans toutes les maisons en France et en Europe et aux États-Unis, mais même partout dans le monde d'ailleurs, parce que le modèle de la ville occidentale triomphe dans le monde entier. C'est ce qui nous pose d'ailleurs un problème. Et donc, l'idée, c'est qu'on va recycler, par exemple, les eaux grises. C'est-à-dire, on va essayer de faire des boucles courtes. Parce que on réalise qu'en moyenne, le prix du mètre cube d'eau potable, il est de 5 euros. Alors 5 euros, c'est calculé de la manière suivante, c'est 2,5 euros d'eau à l'entrée et c'est 2,5 euros d'eau après à la sortie pour son retraitement. Or, dans les eaux usées, vous avez deux types d'eau qui sont tout à fait différentes. Vous avez les eaux des WC, bon, le retraitement là est compliqué, mais en fait, il est faisable. Mais bon, compliqué. Et vous avez les eaux grises. Alors les eaux grises, c'est les eaux de la salle de bain. En gros, quand vous faites couler une douche, vous mettez un peu de savon, l'eau elle coule, vous coulez à 50 litres d'eau qui coule. Vous voyez, la dilution du savon, elle est très... Et les eaux de la cuisine. Sachant que l'eau potable, elle est consommée en tant qu'eau potable seulement pour 1%. Les gens, ils consomment 50 mètres cubes par personne. Et 1% de ça, c'est pour l'eau potable telle qu'elle, et 0,5% c'est pour l'eau de cuisson. Alors moi, ce que je conseille d'ailleurs, c'est plus de mettre de l'eau du robinet à la fois dans l'eau potable et dans l'eau de cuisson, puisque maintenant il y a des phases, mais il y a d'autres trucs.
Oui,
on a caché ça pendant des années, mais c'est énorme. Et en fait, donc du coup, moi personnellement, je traite mon eau potable. Cette eau, l'idée, c'est de la recycler et de la réutiliser dans les usages de la maison. Alors pour ça, il y a des possibilités qui sont pas spécialement onéreuses. Nous, on fait un retour sur investissement. C'est-à-dire que quand on dit aux gens, faites ça, on dit, bon, il faut regarder, il faut pas se lancer dans des trucs, vous n'avez pas le retour sur investissement. Et là, le retour sur investissement, il est, peut-être de 10 ans. Et en plus, le système est très robuste, il n'y a quasiment pas à l'entretenir. Alors déjà, si ça vous évite ça vous permet de réduire l'entrée d'eau de 60 à 70%, vous voyez ce que vous allez gagner. Parce que 5 euros, on est en 2026,
oui,
mais vu le rythme d'augmentation du mètre cube, vous comprenez que vous allez arriver à 6 à 7 euros, voire davantage.
C'est plus pour les gens qui ont un pavillon avec jardin.
Alors ça peut être ça. il y a une chose qui est importante. En fait, comme on veut créer de la végétation autour de la maison et que c'est vraiment une condition sine qua non impérative de la résistance, de la résilience par rapport aux événements climatiques extrêmes. Il va y avoir de la végétation sur la maison, sur le toit, sur les murs, dans les morceaux de jardin qu'on a par exemple en ville, c'est un impératif. Mais vous n'allez pas la breuver avec une eau à 5, 7 euros du mètre cube, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'en fait il faut la breuver avec l'eau recyclée, vous voyez. Alors, on voit que ce modèle, il peut fonctionner, même sur l'immeuble dont je vous parlais il y a très peu de temps, il peut parfaitement fonctionner. Si vous mettez de la végétation sur l'immeuble, vous pouvez faire fonctionner ce modèle en respectant les poids, les charges structurelles et tout. Donc là, on explique hein, comment on met, on explique tout ça, dans le détail bien sûr, mais dans les grandes lignes, pour pouvoir avoir un dialogue après avec ces architectes, ces maîtres d'œuvre qui seront ravis d'avoir des projets intéressants. Là, nous, on a pris le cas d'un petit immeuble de région parisienne, a priori inadaptable. Et en fait, on a montré qu'en augmentant à la fois en étage, on allait chercher des courants d'air en hauteur, donc on retrouvait du courant d'air en hauteur, et puis en le densifiant à l'intérieur, on créait du volume, on créait des gravins successifs, et donc si on végétalisait le tout, alors, il faut imaginer que le bilan de la végétalisation de cet immeuble actuellement, il est de 20 mètres carrés. Le bilan de la zone végétalisée dans cet immeuble, vous voyez, hein, bon, truc. Mais si vous avez un fonctionnement global, si vous prenez en compte une réadaptation, extension, parce qu'on va, nous on va plutôt dans l'extension, parce que on sait que c'est ça, vu le prix du mètre carré, qui va permettre de rentabiliser un investissement. Vous voyez, donc, on va dans l'extension, on crée des parkings un peu souterrains, des sections de maison en plus, on monte, on fait des gradins. Donc, si vous rajoutez la surface des toits et la surface des murs, vous arrivez à un bilan végétal final de 300, 400 mètres carrés, vous voyez, qui sont végétalisés. Vous êtes passé de 20 mètres carrés à, disons 200, 300 mètres carrés, dont vous conservez votre pleine terre de 20 mètres carrés, parce que, par exemple, c'est très important, parce que si vous voulez, par exemple, végétaliser les façades avec, par exemple, des plantes grimpantes, il faut que les plantes grimpantes, elles aillent chercher de l'eau en souterrain. Donc il faut leur donner à un moment il faut leur donner quelque part un sol profond, vous voyez. Donc c'est une petite condition, mais vous trouvez du sol profond facilement. Hein. Vous cassez le ciment d'une arrière-cour, vous cassez en partie un parking, vous mettez un revêtement qui permet de faire passer l'eau, vous retrouvez un cycle de hydrologique, enfin comme on dit, de l'eau qui va vous permettre en fait, de créer un espèce de truc résilient, et là-dessus vous rajoutez du solaire. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est fonctionner avec le minimum de mécanismes. Mais on fonctionne quand même avec des mécanismes quand on peut pas faire autrement. Par exemple pour la production solaire. Mais sinon, on cherche pas parce que tout mécanisme crée des charges. Vous comprenez, tout le monde était remplacé.
Et c'est ce que vous voulez éviter un maximum. C'est ce qu'on retrouve dans votre guide de l'habitat durable, bâtir et rénover face au changement bioclimatique. Ce sont des solutions concrètes avec de nombreux cas pratiques. On va se retrouver jeudi prochain pour poursuivre notre conversation. On rappelle néanmoins le titre, le guide de l'habitat durable, bâtir et rénover face au changement bioclimatique aux éditions Ulmer. Merci encore à vous et on se retrouve donc jeudi prochain. Au revoir.
Au revoir.
It's strong enough. Why do we have to make excuses for love? We keep on hiding like we're not good enough. Oh, I'm gonna stop making excuses for love. La 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 la. Pourquoi on s'aime? On n'en sait rien, mais c'est pas ça le problème. Si tu cherches un truc pour m'emmener plus haut, embrasse-moi. Donne des ailes à mon cœur stone. Donne des ailes à mon cœur. Embrasse-moi toujours. Jamais aucune excuse en amour. Donne des ailes à mon cœur. Excuses for love. You and I need no excuses for love.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Et vous avez compris, une émission très riche avec notre invité Pierre-Gilles Belin, une émission qui va se prolonger jeudi prochain, oui, parce qu'on n'a pas tout évoqué autour de ce guide de l'habitat durable. Alors on se dit à jeudi prochain avec Pierre-Gilles Belin. Merci encore à vous pour votre écoute, pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site d'IDFM Radio. Merci encore à Francky pour la technique. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes d'IDFM Radio et à jeudi prochain. Au revoir.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
So fine, oh, oh girl, I'm good.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne. Je veux aimer savoir pourquoi je suis là. Dis-moi pourquoi je suis là. Et je marche seule, cachée sous mon ombrelle. S'il te plaît, ne te moque pas de moi. Je vais au pôle emploi. La morale à plat. Et je fais le mariole, parfois je démarre. Mais j'en ai marre très vite, je fais des marées de suite. Dites-moi ce que vous en dites. Oh, dites-moi ce que vous en dites. Je suis en mode burn-out, est-ce qu'il faut que je te répète? Ça brûle, ça pique et ça monte à la tête. Je deviens encore plus belle. Je garde le sourire, paraît que la vie est belle. S'il te plaît, non, non, ne m'en pas. Où j'ai dit le m'en pas. C'est bien trop pour moi. C'est bien trop pour moi. Je donnerai tout sans rien garder, sauf ta réalité. Je mourrai comme j'ai vécu, et le foie rit de tomber. L'idéal auquel je rêve, il n'a rien d'anormal. Par-delà le bien, le mal, le temps m'emportera. Comme une rose en cristal, vacille et perd tous ses pétales. Je veux faire briller ma vie, comme l'éclat d'une étoile. Pardonne-moi le jour où je ne pourrai plus te parler. Pardonne-moi chaque moment où je ne t'ai pas.
IDFM Radio, 98 FM.
Manhã, tão bonita manhã. Na vida. A canção cantando só teus olhos, teu riso, tuas mãos. Coisa de haver um dia em que virás nas cordas o meu violão que só teu amor. Vem uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus. Manhã tão bonita manhã, na vida. Teus olhos, teu riso, tuas mãos. Pois há de haver um dia em que virás nas cordas do meu violão que só.
uma voz falar dos beijos perdidos nos lábios teus.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur IDFM98.fr.
No matter what, no matter what, you got to strut. Walk, I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional. Me, hate all you want, but I'm dangerous. You gon' burn your tongue with this tea. Might show up late, might be on time. Just wait, I'm coming. Kiki, this paparazzi routine, bitch, I came to be seen.
Yes. Serve a little sass,
yes.
With a little side of ass,
yes.
Got the front row screaming, okay, okay.
Yes.
Do a little twirl,
yes.
Let them know I'm that girl.
Yes.
Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway.
I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's the entree. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, 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 everywhere I go. Get it, can't get me, face card froze. Never gon' see me waiting at the door, no. Get out the way, ho.
Serve a little sad,
yes.
With a little side of ass,
yes.
Got the front row screaming, okay, okay.
Yes.
Do a little twirl,
yes.
Let them know I'm that girl,
yes.
Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway. Monday through Sunday, I can turn a dance floor into a runway.
IDFM 98FM.
way you've been. It's all been a pack of lies. And I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord. Well, I've been waiting for this moment.
Vos artistes préférés sont sur IDFM Radio.
J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elle prenne. Cette fois je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait, enfin si je le permets, déjeuner en paix. Le déjeuner en paix. du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël?
IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Tous un peu frères, le soleil d'or. Le soleil d'or. De l'or intelligent, le soleil d'or. La même couleur aux gens. La même couleur aux gens, gentiment.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Qu'est-ce que vous voulez, bordel ?
La vérité, capitaine !
Ici, la clé de l'assassinat de JFK reposait dans les mains d'un seul homme.
Le 22 novembre 1963, est-ce que cette date vous dit quelque chose ?
Deux comédiens, quatre destins, un secret d'État.
Dans les affaires de votre père, il y a sûrement quelque chose qui m'aiderait à prouver tout ce que je viens de vous expliquer.
Entre complot, trahison et quête de vérité, découvrez la première fiction théâtrale autour de l'un des assassinats politiques les plus fascinants du XXe siècle.
Je trahis toutes les valeurs que vous m'avez enseignées.
Le courage est la valeur qui définit toutes les autres, Ethan. L'heure est aux hommes de courage.
Kennedy des Hommes de Courage, à découvrir du 4 au 25 juillet au théâtre Barreta à 20h30 au Festival d'Avignon OFF 2026.